Stéphane Audouin-Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes historien, spécialiste de la Grande Guerre, à laquelle vous avez consacré de nombreux et importants ouvrages. Mais plus spécifiquement, j'ai envie de dire que vous êtes un historien spécialiste de la guerre, de l'expérience combattante, de la violence de guerre, ce qui vous distingue un peu dans le champ historiographique récent, en tout cas en France. Alors je voudrais vous interroger justement sur cet aspect un peu central de votre œuvre, qui est une œuvre habitée, traversée par un souci anthropologique, une inquiétude sociologique tout à fait caractéristique. Je le dis caractéristique parce qu'au fond, les sciences sociales ne sont pas beaucoup intéressées à cette expérience de guerre, à cet oubli de la guerre. Est-ce que vous approuvez ce jugement finalement? Est-ce que vous approuvez cette idée que les sciences sociales ont un peu oublié la guerre comme expérience combattante et comme violence guerrière?
Oui, j'approuve le jugement entièrement. J'aurais même tendance à le durcir un peu. Je pense que les sciences sociales, effectivement, ont trop oublié, qu'elles sont fautives d'avoir oublié effectivement ce que j'appelle le fait guerrier plutôt que la guerre d'ailleurs, justement pour le généraliser. Pour le désaffecter le plus possible, pour en ôter les affects, pour en ôter aussi dans une certaine mesure la temporalité, pour l'anthropologiser dans une certaine manière. Alors cet oubli des sciences sociales, cet oubli de la guerre par les sciences sociales, en particulier, me semble-t-il, par les sciences sociales françaises, hein, il me semble que les sciences sociales aux États-Unis, en Angleterre, pour des tas de raisons que l'on pourrait donc développer, ont moins oublié la guerre que l'ont fait les Français ou les Allemands. Cet oubli est probable, me paraît être constitutif de du moment où elles se sont formées sous leur forme moderne, c'est-à-dire au début du XXe siècle, au moment précisément où elles ont rencontré, si l'on peut dire, ce choc immense pour tout le monde occidental et pour l'Europe en particulier, qu'a été la Première Guerre mondiale.
Vous pouvez illustrer un petit peu cet oubli. Je sais que vous allez publier un prochain livre sur ces questions, Combattre, je crois, c'en est le titre.
C'est le titre.
Est-ce que vous pouvez illustrer plus précisément, comme j'imagine vous le ferez dans ce livre, les grands fautifs, puisque vous avez utilisé ce mot?
C'est triste à dire, mais les grands fautifs sont en même temps des héros.
Ce sont des grands fondateurs.
Ah oui, c'est des héros des sciences sociales et qui parfois ont été aussi des héros de guerre. Notamment des héros de la Première Guerre mondiale. Enfin, ce qu'on appelait après la Première Guerre mondiale des héros, c'est des gens qui avaient fait ce qu'on appelait une belle guerre, très souvent, une guerre héroïque, une guerre dont ils étaient sortis très décorés, gradés, reconnus comme combattants. Et un des grands paradoxes donc, de cette relation compliquée, non seulement des sciences sociales, mais de ceux qui les pratiquaient, ou de ceux qui allaient les pratiquer, à cette relation compliquée à la Première Guerre mondiale, c'est justement la manière dont ils n'en ont pas parlé, la manière dont ils ont réussi à occulter cet événement majeur hein, des sociétés européennes, dont ils l'ont occulté dans leurs travaux, généralement, ou en tout cas dans la manière dont ils ont occulté leur propre participation donc, au conflit, et ce que l'on pouvait en tirer, justement, de cette participation du point de vue hein, d'un travail de sciences sociales, du point de vue du champ de recherche, d'investigation qui était le leur.
À qui pensez-vous en particulier?
Alors, il y a les cas, à mon avis, les plus emblématiques de ces héros ou de ces anti-héros ici, puisqu'au fond, effectivement, j'émets de manière une critique à leur égard, même si cette critique, je le sais bien, n'est pas justifiée. Pas complètement justifié. Alors on pense bien sûr à des gens aussi importants que Marcel Mauss pour les sciences sociales françaises. On pense à un historien britannique comme Richard Tony, par exemple, qui était déjà un historien reconnu et qui dont l'expérience de guerre a été centrale. On pense à Norbert Elias pour d'autres raisons, qui lui était trop jeune pour être déjà engagé dans un travail de sciences sociales, mais qui allait s'y engager après la Première Guerre mondiale. On pense même à Marc Bloch qui est celui sans doute qui a dit le plus de choses sur son expérience de guerre, mais qui les a dites de manière cachée d'abord, c'est-à-dire il n'a pas cherché dans un premier temps à les publier, et qui ne les a dites surtout pour l'essentiel que beaucoup plus tard, au moment de sa seconde rencontre avec l'expérience de la violence, c'est-à-dire lors de la campagne de mai-juin 40. Et puis bien sûr, dans le cas des sciences sociales françaises, de l'histoire française la plus traditionnelle, il y a le très beau cas de Pierre Renouvin, avec une guerre comme une guerre banale en fait, souvent hélas pour tant de Français de cette époque, c'est-à-dire une guerre d'officiers d'infanterie, d'officiers de contact, blessés deux fois, grand mutilés, et qui a trouvé le moyen de ne jamais dire un mot, un seul mot, sur la Grande Guerre, dans tout un travail qui justement était centré sur elle. C'est-à-dire que dans un travail centré sur la guerre, les relations internationales autour d'elle, autour du conflit, l'examen de tous les documents du Quai d'Orsay et des archives internationales sur cette question, a trouvé le moyen donc, de toute sa vie traiter de la Première Guerre mondiale sans jamais dire ni s'appuyer au fond sur son expérience personnelle. Quand par hasard dans ses livres, il y a un passage où il dit quelque chose de l'expérience combattante, de l'expérience des soldats, de l'expérience des officiers, des officiers subalternes, des officiers juniors, comme on dit en Bretagne, on peut être sûr que c'est un endroit où il n'était pas. Où il y a une phase de la guerre où il était. Dans les phases de la guerre où il était, là où il a vu de près le combat, alors là, on est sûr qu'il arrive à désincarner complètement et à déréaliser complètement son discours.
Alors, tous ces gens ont porté l'uniforme, ont connu le feu, vous venez de le dire, et parfois dans les pires conditions. Norbert Elias, je crois, en 1916, sur la Somme, pendant la bataille de la Somme.
Absolument, 1916, oui.
1916. Tous ces gens ont fait cette expérience, n'en ont quasiment rien dit, ou très tardivement, ou dans les recoins de leur œuvre. C'est tout de même assez surprenant, parce que si on y réfléchit, partout ailleurs, dans l'espace public, on a beaucoup parlé de l'expérience de guerre, que ce soit les témoins, la littérature de témoignage, que ce soit la littérature tout court, la littérature de création, la grande littérature, si j'ose dire, de Zola à la débâcle, à la route des Flandres de Claude Simon, en passant par le voyage au bout de la nuit de Céline. Enfin, la littérature du XXe siècle est habitée par cette expérience de guerre. Comment vous expliquez les raisons du silence des sciences sociales sur cette affaire?
Ah oui, d'abord revenons sur cette présence, sur cette présence de la guerre à nos sociétés au XXe siècle. C'est une présence évidemment d'une grande intensité. Effectivement, vous avez cité le témoignage, mais dans le cas de la France, mais c'est également le cas de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, le témoignage de guerre après 1918 et même pendant la guerre même a vraiment envahi le champ éditorial, le champ littéraire aussi. La guerre a produit quelques œuvres qui sont parmi les plus importantes sans doute de la littérature au XXe siècle. Puis il y a d'autres présences, il y a la présence du discours dans la famille. On dit toujours que les anciens combattants se sont tus, pas toujours. Parfois ils ont parlé ou ils ont dit des bribes. Enfin bref, il y a aussi cette présence d'un discours familial sur lequel on sait très peu de choses, mais dont on sait qu'il a tout de même existé ou existé en partie à travers tous les...
Les affaires dont nous parlons, rappelons-le, ne sont guère qu'à 3 ou 4 générations de nous.
Absolument.
Donc dans les familles...
Absolument. Et je suis bien placé pour savoir, à travers ce que me donnent des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, que la trace d'un discours sur la guerre, la Première Guerre mondiale, éventuellement la Deuxième, d'ailleurs, voire guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, cette trace perlabore en quelque sorte dans les familles et que les héritiers de la Deuxième, Troisième, Quatrième génération connaissent les textes, veulent les éditer, les commandent, vous les apportent, etc., se les transmettent. Donc il n'y a pas eu silence ici, ou un silence partiel, incomplet, en tout cas jamais ce silence presque total des sciences sociales. Il y a aussi bien entendu toute la dimension artistique de la question. Dix a dit quelque chose, Grotz a dit quelque chose, toute une série de peintres français ont dit quelque chose de leur expérience de guerre. Et puis aujourd'hui le cinéma a pris le relais, enfin il avait déjà pris le relais dans les années 20 et 30. Le cinéma a dit quelque chose de la violence de guerre, parfois de manière d'ailleurs presque obsessionnelle. Donc les sciences sociales, au fond, se singularisent par leur absence, par leur frilosité. Elles ont vraiment laissé ce champ de l'expérience du combat, de l'expérience de la violence et de ce qui s'est joué donc, dans ce combat et dans cette violence, donc à d'autres. Alors pourquoi ?
Oui.
Ça, c'est évidemment une grande question et je ne suis peut-être pas le mieux placé pour y répondre, parce qu'en tant qu'historien moi-même, intéressé aussi par l'anthropologie, donc faisant des sciences sociales ou prétendant en faire, au fond, je suis moi-même partie prenante, dans une certaine mesure, même si j'essaye de lever le silence, en tout cas en France, je suis partie prenante de ce silence. J'ai été formé dans ce silence. Celui de mes études, celui des livres que j'ai pu lire, etc. Je crois que, il me semble qu'il y a une forme de pudeur très particulière, disons des sociologues, historiens, anthropologues, face au cœur même de l'expérience de guerre. Et ce cœur de l'expérience de guerre, c'est la violence dans sa corporéité. C'est également, bien sûr, du coup, l'atrocité, c'est la mort, c'est la douleur, c'est l'obscénité de tout cela. Et au fond, il y a, vis-à-vis de ces objets, donc un recul. Alors, je parle de pudeur, on la retrouve pour d'autres objets. Je songe à ce que dit Alain Corbin, par exemple, sur l'histoire aseptisée, sur l'histoire du corps aseptisé, le champ de la médecine exclu, le champ de la sexualité exclu, etc. La guerre participe probablement, hein, la violence de guerre en particulier, la violence de combat participe probablement en partie de cette euphémisation, de cette déréalisation, hein, donc des sciences sociales qui au fond aboutissent du coup à mettre au jour des réalités surgelées. Il y a probablement une raison plus profonde. La raison plus profonde, c'est que la violence de guerre questionne très en profondeur notre propre humanité. Elle nous met en cause au plus profond. Je crois que cela, nous ne voulons pas le voir. Nous ne voulons pas le voir, les sciences sociales préfèrent ne pas le voir, et c'est en ce sens qu'elles sont, au fond, profondément inconscientes, je crois, de ce qui se joue vraiment donc sur les champs de bataille, dans la violence en général, même si, il faut le reconnaître, les choses évoluent, bougent, et qu'aujourd'hui, il me semble quand même que ce retard des sciences sociales commence, disons, à être comblé.
Mais vous qui approchez précisément ce que nous ne voulons pas voir ou ce que les sciences sociales n'ont pas voulu voir, vous avez le sentiment de faire quelque chose de dangereux ?
J'ai le sentiment de commettre une transgression, oui.
Oui,
oui, je l'ai souvent perçu, je le perçois en particulier, moi à l'écrit, parce que moi à l'écrit, encore que je prends de grandes précautions oratoires pour essayer d'exposer ce que je dis, et j'essaye de ne jamais donner l'impression au lecteur de prendre un quelconque plaisir à ce que j'expose. Et contrairement à d'autres sociologues de la violence, je pense à Asofsky par exemple, qui au contraire adopte une posture fondamentalement différente, qui au contraire d'attraper en quelque sorte son lecteur par le collet, de le jeter de force en quelque sorte dans le spectacle atroce. Je pense que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce sentiment de transgression, vous l'avez beaucoup plus, à mon avis, à l'oral. Dans une conférence, dans un cours, etc., quand vous êtes bien obligé de dire quelque chose de ce qui se passe sur un champ de bataille, ce qui se passe dans l'atrocité, ce qui se passe dans la découpe des corps de l'ennemi, une pratique très fréquente sur les champs de bataille, notamment du second XXe siècle, ce qui se passe dans la torture, qu'est-ce qui se joue vraiment du côté du traitement du corps de l'adversaire en particulier, qui me paraît le point le plus brûlant et le plus fondamental, hein, de l'expérience, eh bien, on sent immédiatement une sorte de froid dans l'auditoire, une sorte de silence, une agitation. Je crois que celui qui parle de la violence de guerre, qui en parle vraiment, est en même temps celui qui l'annonce. Il ne peut pas ne pas être pour l'auditeur
obscène
celui
au sens.
Qui a, voilà, c'est l'obscène, c'est l'obscénus, oui. Hein, c'est-à-dire de mauvais présage.
Oui.
L'obscénité de la violence de guerre, donc, est mauvais présage, et donc on est. Il l'annonce et il est celui qui éventuellement la prendrait en charge.
Vous avez le sentiment que pour les générations des fondateurs des sciences sociales qu'on vient d'évoquer, évoquer précisément au ras du sol l'expérience de guerre, c'eût été prendre le risque de la faire revenir d'une certaine manière, de la rendre tolérable à la discussion, de la banaliser ou...
Je pense que c'est une bonne hypothèse. C'est une bonne hypothèse qu'on ne peut malheureusement pas prouver. D'un point de vue, à mon avis, les sciences sociales là s'arrêtent, puisque en fait il y a très peu de moyens d'analyser un silence. En fait, ce silence de Mauss, de Renouvin, de Tony, de Marc Bloch, d'Elias, bien entendu, puis pour la Deuxième Guerre mondiale, le silence de Leach, donc, qui combat en Birmanie et n'en dit pas un mot ensuite quand il publie son grand livre sur les Kachines, le silence d'Ivan Pritchard, donc, qui ne dit pas un mot de, son, de ses combats ethnographiques, si l'on peut dire, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie en 1939-1940. Tout ça, ce silence extrêmement épais, par définition, est très difficile à forcer. On peut le repérer, on peut en voir les dégâts, si l'on peut dire, dans le champ des sciences sociales, on peut en voir les effets, mais en analyser les raisons qui peuvent être différentes pour chacun des acteurs, en l'occurrence, en analyser les raisons est par définition extrêmement, extrêmement difficile.
On est toutefois frappé, en regardant d'un peu plus près les œuvres de gens comme Mauss ou Elias, de la proximité d'apprentissage ou en tout cas d'enseignement entre leur œuvre et cette expérience dont ils ne parlent jamais. Je pense à Mauss en particulier, pour qui les questions liées à la corporéité et aux apprentissages techniques étaient des questions très familières. Bon. Est-ce que, et d'une certaine manière, pour Elias, le processus est un peu différent. On sait bien qu'il a participé à la guerre, qu'il n'en a parlé que très tardivement, et néanmoins, son œuvre semble être construite contre la guerre. C'est le processus de civilisation, c'est tout le contraire de ce qu'a essayé de montrer quelqu'un comme George Mosset, que vous avez contribué à faire connaître en France, et qui peut-être d'ailleurs vous a un peu influencé, vous nous direz.
Beaucoup influencé.
Qui lui parle plutôt du processus de brutalisation. Bref, on a le sentiment d'une étrange proximité entre l'œuvre et, cette expérience dans ces deux cas, mais une proximité qui ne peut pas se dire. C'est-à-dire que, voilà, une proximité. Alors ma question, c'est, ce silence, est-ce simplement un manque? Est-ce un remords? Est-ce un refoulement? Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, a travaillé les œuvres par derrière?
En d'autres termes, est-ce que, si on reprend votre question, qui me paraît capitale, est-ce que ce silence, au fond, est un hasard? C'est un hasard, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ou est-ce qu'il est volontaire et éventuellement inconscient, c'est-à-dire est-ce qu'il faut parler de déni? Je crois que dans le cas de Renouvin, dans le cas de Mauss, dans le cas d'Elias en particulier, c'est de déni qu'il faut parler. L'œuvre d'Elias, au fond, me paraît être construite presque intégralement sur le déni de l'expérience de guerre. L'expérience de guerre refoulée est inintégrable dans un système de pensée, enfin, toute la théorie du procès, du processus de civilisation, de ce processus socio-psychique, au fond, de refoulement, au fond, de la violence et des formes de brutalité qui seraient en chacun de nous, pour dire les choses un peu rapidement, eh bien, ce processus, au fond, me paraît, l'exposé, en quelque sorte, par Elias, de ce processus, sa théorie si rigide, finalement, hein, si dogmatique par certains côtés, me paraît vraiment être littéralement un système permettant de refouler une expérience de guerre qui a été hautement traumatique. Et ça, on sait, dans le cas d'Elias, que cette expérience de guerre a été hautement traumatique parce qu'il a fini par le dire. Il a fini par le dire dans un texte de 1984, tout à fait à la fin de sa vie, une interview, à mon avis, capitale, qui a été faite aux Pays-Bas, où les deux jeunes... ce sont des universitaires qui le serrent de près, en quelque sorte, et l'amènent à essayer de dire son expérience. Et il ne peut pas la dire. Il commence à la dire, donne des bribes, s'arrête, fait des silences, son discours est haché. Et devant eux, il leur dit, tout ce que je suis en train de vous dire, je suis obligé d'aller le chercher très loin, c'était entièrement disparu de ma mémoire. Il y a des blancs, je ne sais pas comment je me suis retrouvé à Berlin, comment je me suis retrouvé ailleurs, etc. Il y a une sorte de... c'est vraiment une interview qui met en valeur vraiment un oubli profond et un oubli, à mon sens, effectivement volontaire. Et ça jette sur l'œuvre d'Elias, qui est peut-être une des plus importantes dans les sciences sociales au XXe siècle, non seulement en France, mais à l'extérieur, ça jette sur l'œuvre d'Elias un regard complètement différent. On a l'impression qu'au fond, tout est construit pour, au fond, rejeter tout ce qui serait du côté de la guerre, de la violence, et même du conflit, à l'extérieur de son système de pensée. Il le dit d'ailleurs à un moment, dans un très beau texte tardif, si j'avais pu choisir mon monde, le monde dans lequel j'aurais vécu, j'aurais choisi un monde dans lequel le conflit entre êtres humains ne soit pas possible. Et le conflit au sens le plus banal, il ne parle même pas de conflit guerrier, c'est le conflit donc au sein de, le conflit social serait le conflit au sein du social ce serait donc impossible et inenvisageable. C'est un aveu prodigieux pour un sociologue.
C'est-à-dire qu'il aurait choisi
une société morte.
Ou alors il aurait choisi la société de la fin de la civilisation.
Voilà, la société de la fin de la
civilisation. Terme, voilà, travail de civilisation.
Société entière, voilà, entièrement aseptisée.
Alors, Elias est vraiment un cas très, très intéressant. En même temps, on ne peut pas ne pas vous renvoyer ses propres réponses à l'objection que vous lui faites.
C'est-à-dire
que dans un texte, encore une fois tardif, c'est vrai, tout ça est arrivé à la fin de son œuvre. Les Allemands, qui n'est pas traduit d'ailleurs en français, Die Deutschen, il s'explique sur cette objection. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de la guerre? Comment pouvez-vous décrire le XXe siècle à la lumière de ce procès de civilisation, alors que le XXe siècle a été le théâtre des guerres les plus abominables, les plus exceptionnellement meurtrières de notre histoire? Et je voudrais vous entendre un peu sur ce point, parce qu'une de ces objections, c'est d'abord de proposer un système dialectique en disant mais finalement les guerres mondiales sont des étapes dans un processus plus vaste, mais surtout il utilise beaucoup une opposition temps de paix, temps de guerre. Et au fond on a le sentiment, j'espère ne pas le trahir en disant ça, que la sociologie, les sciences sociales auraient vocation à s'intéresser aux temps ordinaires que ne pénètre pas l'expérience de guerre.
C'est tout à fait vrai. Je crois que Elias, au fond, a confiné son système, en quelque sorte, à partir des années 60. Il se fait à lui-même, ou il reçoit, si l'on peut dire, l'objection guerrière donc à sa théorie du procès de civilisation. Et au fond, il, dans une certaine mesure, il l'adapte, et dans une autre, il le confine. Il le confine dans la mesure où il dit finalement, et c'est aussi ce que les successeurs d'Elias ont souligné et continuent de souligner, au fond, le système eliasien ne vaut que pour des sociétés État centrées sur elles-mêmes, coupées des relations avec d'autres sociétés État, et donc coupées de l'éventualité de la guerre en particulier, et des sociétés pacifiées. Donc, finalement, le système du procès de civilisation ne vaudrait qu'à l'intérieur, au fond, d'une coque, ainsi définie. Et deuxièmement, il adapte ce système, tout en l'ayant confiné, il l'adapte en disant « oui, mais au fond, il n'y a pas de progrès continu du procès de civilisation ». Effectivement, jamais Elias n'avait dit une chose pareille, c'est une mauvaise interprétation que de le dire. Et il peut y avoir des breakdowns de civilisation, des ruptures du procès de civilisation, des moments de décivilisation, dit-il. Et évidemment, il cite à ce moment-là « enfin !» les deux guerres mondiales comme deux moments clés de breakdown de la civilisation, et en particulier à ce moment-là, il se centre sur l'extermination des Juifs d'Europe comme le centre même, et que la mère d'Elias était morte à Auschwitz. Le problème c'est que ce sont des adaptations tardives de la théorie, destinées au fond à continuer à défendre sa validité. Et deuxièmement, Elias, dans cette adaptation, fait une faute considérable. La faute considérable, c'est le problème du passage d'un moment d'un procès de civilisation à un moment de décivilisation, comme justement les deux guerres mondiales. Il dit, au fond, les sociétés donc peuvent connaître des moments de décivilisation, les sociétés européennes l'ont connu, mais pour que ce passage s'organise, il faut toujours, dit-il, un temps considérable. Et ce petit détail, cette petite erreur montre qu'Elias n'a toujours pas compris ce qui était en jeu dans la guerre. En réalité, il ne faut pas un temps considérable, il faut quelques heures. Et l'expérience, à mon avis, des deux guerres mondiales en particulier, montre que le basculement dans une violence extrême des sociétés, entre guillemets, pacifiées, sociétés européennes, des sociétés occidentales pacifiées, ce passage a été rapide, il a été massif, il a été facile. Et donc, cette question de la temporalité, évidemment, change complètement le tableau. La théorie d'Elias ne peut se soutenir, si l'on peut dire, que si effectivement le passage d'un procès de civilisation à un moment de décivilisation, que si ce passage est lent, difficile, progressif, heurté, etc. Or, justement, tout nous indique, et ça c'est vraiment l'expérience historienne des débuts de guerre en particulier, tout nous indique au contraire que la violence extrême est là tout de suite.
C'est que sa culture est déjà là.
Oui, évidemment. Je pense que la question centrale, c'est que nous voulons imaginer une étanchéité profonde, complète, entre la paix et la guerre, entre les sociétés en guerre et les sociétés de temps de paix, les sociétés pacifiées. Je crois qu'un des points sur lesquels devraient se concentrer les sciences sociales, c'est justement sur la porosité entre temps de paix et temps de guerre, et la contiguïté qui existe entre toute une série de nos activités parfaitement licites des sociétés pacifiées et l'activité guerrière. Alors je pense évidemment à toute une série d'activités sportives, je pense au football en particulier, dont la porosité avec la guerre est très grande et qui ne manque pas d'exemple, par exemple du XXe siècle finissant, montrant à quel point les supporters de football forment d'excellentes milices pour les atrocités de guerre. Ça a été le cas des supporters du Red Star de Belgrade, par exemple, formé par Arkan, le chef des supporters du Red Star, et qui les forme en milice au début des années 90 et les jette sur Vukovar où ils commettent les pires atrocités sans jamais cesser d'être des supporters de leur club. Bon, voilà, une activité sociale comme une autre, mais dont on sait, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres évidemment, le travail minier par exemple, qui a disparu en grande partie de l'Europe occidentale, mais le travail minier est une activité systématiquement rabattue sur la guerre par ceux qui le pratiquent. On attaque une veine de charbon, la hiérarchie, le feu, le danger, l'activité, la dimension purement masculine de ce travail, les femmes attendent en haut, etc., la mort qui est à l'horizon d'attente. Et évidemment, ce sont aussi des mineurs. Hein, qui ont fait les galeries de mines pendant la Première Guerre mondiale, qui ont les mines, c'est les mines de charbon, mais c'est les mines aussi qui servent à miner les tranchées d'en face et qui contribuent à la brutalisation du combat pendant la Première Guerre mondiale. Et on pourrait trouver ainsi, je suis prêt à continuer, mais on peut trouver ainsi toute une série de nos activités de temps de paix qui sont en fait préparation continuelle.
Préparation de nos corps.
De nos corps et nos esprits. Dans le projet, par exemple, américain de Land Warrior, le projet d'uniforme et de GPS permanent qui permettrait aux soldats, au fond, d'être jamais isolés sur un champ de bataille, d'être constamment en relation avec les autres. Et bien, ces uniformes dont les essais ont commencé sont déjà bien entamés. Si les jeunes soldats américains s'y adaptent aussi bien, c'est parce qu'ils sont formés aux jeux vidéo et qu'ils sont formés, justement, à une guerre virtuelle par jeu vidéo interposé qui permet un passage très facile ainsi à des équipements très sophistiqués qui, dont une des conséquences pour l'adversaire en tout cas sera d'intensifier encore, de radicaliser la violence de guerre. Donc je crois que nos sociétés veulent croire qu'elles sont évidemment pacifiées et pacifiques. Je crois que leur pacifisme est dans une certaine mesure partie prenante de leur bellicosité. Et nos sociétés, les sociétés occidentales, au fond, ce sont des sociétés warlike, comme disent les anthropologues. Elles ne veulent pas voir qu'elles sont warlike. Et je crois que leur pacifisme affiché est une partie, justement, un mode de ritualisation de leur capacité à passer à tout moment à la violence.
Alors, pour finir sur une note plus optimiste,
si vous voulez,
existe-t-il des sociétés war-free ?
Il existe des sociétés war-free, oui, il en existait. On sait bien que les sociétés primitives, comme on dit, sont toutes aujourd'hui, disons, disparues, en voie de disparition accélérée. Et il en existe, en effet, qui ont été bien repérées par les anthropologues, pas si bien repérées que ça d'ailleurs, mais enfin, dans l'ensemble repérées, disons une quinzaine, une vingtaine dans la gamme inouïe des sociétés humaines. Une des plus intéressantes, à mon avis, celle des Chewong, des Hautes Terres de Malaisie, donc a été bien expertisée dans les années 80, deux petits groupes de 100-300 personnes, dans lesquels toute violence de guerre et toute violence sociale, y compris verbale, est tout simplement impossible, ne peut advenir. S'il advient, elle signe la mort sociale précisément de ceux qui s'y adonneraient, et où la terminologie même de la violence n'existe pas. La guerre n'existe pas, l'assassinat, les termes même, assassiner, violenter, violence, brutalité, etc. Tout ça n'existe pas, alors que des pratiques, elles existent, des pratiques de chasse en particulier, mais qui jamais ne sont rabattues sur l'activité interhumaine. Voilà, c'est une note optimiste si on veut.
D'accord. Merci beaucoup Stefano Doroso.